Chapitre 22. Le vent nous poussait dans le dos. Nous étions alignés au sommet du deuxième ressaut, les mains en l'air face à Bruno Siegel comme il nous l'avait ordonné. Le diacre a encore le lougueur de Barner, songeais-je désespérément. Mais il avait tiré les deux cartouches et l'arme était vide. Le pistolet de Siegel était sûrement plein. Combien de cartouches le diacre nous avait-il dit que contenait le chargeur? 8. Assez pour nous atteindre tous, recharger et donner le coup de grâce si nécessaire. Nous avions parcouru beaucoup de chemin pour arriver à cet épilogue absurde et pathétique. Et tout ça parce que, distrait par ma crise de suffocation, nous n'avions pas remonté les 30 mètres de corde d'assurage encore accrochées au banc de pierre en haut du ressaut. Telle une phalène affolée, mon cerveau passait d'une idée à une autre pour trouver une issue, en vain.
« Dites-moi où sont les photographies, » dit Siegel, « pour m'épargner le temps et l'effort de vous fouiller, vos sacs à dos et vous. »«
Quelles photographies ?» demanda Jean-Claude.
Siegel lui tira dessus. La détonation sembla très sonore malgré le vent. J.C. s'écroula sur la pierre couverte de neige. Je vis du sang couler de son flanc droit, mais pas en un flot suggérant qu'une artère était touchée. Qu'est-ce que j'en savais cependant ? Sinon que toute blessure ou maladie grave à cette altitude signifiait la mort. Nous voulûmes tous aller vers notre ami, mais un mouvement du lougueur nous immobilisa et nous remîmes les mains en l'air.
« Puis-je l'examiner et le soigner, Herr Siegel ?» demanda Passang. « Je suis médecin. »
L'Allemand éclata de rire.
« Non, vous êtes un nègre et vos mains ne devraient jamais toucher la chair arienne, même celle d'un Français mort. »
Je serrai les dents. Mais ne bougez pas. Je ne me ruais pas sur mon sac à dos à 2 mètres de moi pour y chercher mon pauvre pistolet Very non chargé. Je ne baissais pas les mains. Je me rendis compte que j'avais très envie de vivre, ne serait-ce que quelques minutes de plus.
Je vous ai vu à travers mes jumelles prendre ces photos sur les corps, dit Siegel. 5 enveloppes. N'insultez plus jamais mon intelligence.
Herr Siegel, demandai-je d'une voix rauque.
Puis-je cracher?
Quoi?
Il braqua son lougueur sur mon visage.
Du sang, Herr Siegel.
Puis-je cracher le sang que j'ai dans la bouche avant qu'il me fasse vomir?
Comme l'Allemand ne répondait pas, je me tournai de côté à cause du vent et crachai le caillot de sang qui s'était formé dans ma gorge endolorie.
« Merci,
lui dis-je. Merci de ne pas nous tuer, monsieur.
Pathétique. Ça ne va pas fort, monsieur Perry,
dit Siegel en riant une fois encore.
Vous souffrez peut-être d'embolie pulmonaire.
Il agita son pistolet vers nous.
Déshabillez-vous tous. Laissez tomber vos vêtements à vos pieds, puis reculez. N'essayez pas de jouer les héros ou vous mourrez tous sur le champ.
« Moi d'abord !»
dit Reggie, faisant un pas en avant. En quelques secondes, elle avait posé son sac à dos hors de sa portée, retiré son anorak, son duvet Finch et son pantalon de duvet, les coinçant sous son pied alors que le vent la poussait fort dans le dos. 15 secondes plus tard, elle ne portait plus qu'une chemise en laine au-dessus de ce qui semblait être des sous-vêtements de soie. Siegel l'observait en ricanant, mais sans jamais nous quitter des yeux, nous non plus. Si Reggie comptait distraire l'Allemand pour nous donner une chance de nous ruer sur lui, son plan ne fonctionnait pas. Il était trop loin, et nous étions alignés si bien qu'aucun de nous ne pouvait bloquer un tir avec son corps. Reggie laissa tomber sa chemise sur le tas de vêtements qu'elle bloqua avec sa botte, puis enleva des épaisseurs de coton et de soie. À présent, elle était en caleçon de laine de la taille jusqu'en bas et ne portait plus qu'un soutien-gorge en haut. Elle passa les bras dans son dos pour le dégrafer. J'avais envie de pleurer. Des parties délicates du corps de Reggie seraient atteintes de gelure d'ici à quelques minutes, ou plus probablement quelques secondes. Jean-Claude continuait de se tortiller sur la neige en perdant du sang.
« Ah, désolé, Frau Bromley, mon fort !»
dit Siegel dans un rire.
« Mais j'ai déjà vu des seins anglais. Sogar die Titten von englischen Mädchen. Et de plus gros !» Mais quand vous serez nus, je vous tuerai peut-être en dernier. À moins que je ne vous laisse vivre le temps que mes hommes s'amusent un peu avec vous.
Puis son visage se déforma en un rictus bestial et il jeta.
« Où sont les photos, espèce de putain anglaise ?»«
Dans mon sac à dos. Je peux les prendre, si... »
Siegel secoua la tête. C'est alors que Jean-Claude se releva d'un bond et, sans même tenir son flanc blessé, se précipita vers Siegel. L'Allemand recula d'un demi-pas et tira deux fois, et toucha deux fois JC à la poitrine ou dans le ventre. Notre ami continua à chanceler vers lui. Siegel fit deux pas vers la gauche, vers la face sud, mais encore loin de la corniche de neige, et tira deux cartouches supplémentaires. La quatrième traversa le corps de Jean-Claude et transperça la bouteille d'oxygène dans son sac à dos. Un flot d'air anglais se répandit en sifflant dans le vent et enveloppa les deux hommes dans une brume de cristaux de glace. Nous en profitâmes tous pour nous déplacer. Mais ce fut Jean-Claude qui entoura l'Allemand de ses bras et le força à faire un pas en arrière, puis deux, puis quatre.
« Nein, nein, nein !»
hurla Siegel en frappant la tête de Jean-Claude avec la crosse de son Luger. Tous deux titubèrent encore de trois pas sur la neige de la corniche.
« Sale boche !»
haleta Jean-Claude, crachant de grandes quantités de sang sur l'anorak blanc de Siegel. Même avec cinq balles dans le corps et l'oxygène qui gelait dans l'air autour d'eux, JC ceinturait Siegel de son bras gauche et semblait, de sa main droite ensanglantée, vouloir lacérer le flanc gauche de l'Allemand. La corniche se déroba sous eux et ils disparurent par le trou dans la neige. Nous tous, sauf Reggie, nous approchâmes autant que possible du bord de la face sud. Siegel hurla un long moment, son cri se modifiant sous l'effet Doppler, alors que les deux hommes enlacés tombaient en un plongeon sans fin. Aucune aiguille miracle ne vint arrêter leur chute comme pour Percival et Meyer. De plus, ils n'étaient pas encordés, mais seulement liés par l'étau puissant des bras de JC. Bientôt, ils ne furent plus que des points qui disparurent à leur tour de notre vue quelque part sur le glacier du Kangchung, 3000 mètres plus bas. Je n'entendis pas Jean-Claude crier. Je crus, et j'ai choisi de croire jusqu'à ce jour, qu'il était mort avant de comprendre qu'il tombait, même si son plan consistait précisément à basculer de la corniche avec Siegel. Le diacre baissa les yeux, et suivant son regard, je compris pourquoi J.C. avait furieusement griffé de sa main droite le flanc de l'Allemand. Il avait arraché la carabine Lee Enfield de l'épaule de Siegel et l'avait lâchée une seconde avant la chute. Je la ramassai.
« La lunette télescopique s'est brisée sur la roche, » dis-je.
« Ça n'a pas d'importance, » dit le diacre en me prenant l'arme des mains. Il retira le chargeur trapézoïdal, placé devant le pontet, le vida dans sa main et compta les longues cartouches chemisées de cuivre. Puis il les remit dans le chargeur en utilisant son pouce. J'en avais compté 10. Leur extrémité en plomb paraissait très lourde et pointue. Reggie se rhabillait avec l'aide de Passang. Les lèvres bleues, elles tremblaient de manière incontrôlable à cause du froid. Contrairement à ce qu'avait prétendu Bruno Siegel, elle avait réussi à le distraire juste assez pour permettre à Jean-Claude d'agir. Je traversai le ressaut avec le diacre jusqu'au banc de pierre dominant la pique de 30 mètres. Il mit un genou à terre derrière le banc et posa les coudes et le fusil sur la pierre. Je m'agenouillai à côté de lui et pris les jumelles qu'il venait de sortir de son sac.
« Vous serez mon observateur, » dit-il. « Vous ouvrez l'œil et vous me dites si je tire trop haut ou trop bas, trop à gauche ou trop à droite. Si je manque ma cible, dites-moi de combien et dans quelle direction. J'ajusterai en fonction de ce que vous m'annoncerez. »
Sa voix était aussi calme que s'il discutait de l'horaire des trains à la gare de Paddington.
« Compris, » dis-je.
Et je levai les lourdes jumelles. Les quatre autres Allemands n'étaient qu'à mi-chemin entre le champignon et le deuxième ressaut. Ils avaient dû faire une pause derrière le gros bloc de pierre à l'abri du vent, pendant que Siegel partait devant. Avant que Reggie et Passang nous aient rejoints, le diacre, utilisant seulement la mire métallique, avait inspiré, retenu son souffle et tiré sa première cartouche. La détonation me fit sursauter et m'assourdit pendant un instant. Le premier Allemand de la file sur l'arête bascula en arrière comme si quelqu'un l'avait tiré par les jambes. À travers les jumelles, je vis la tache rouge s'étendre sur son anorak blanc et couler sur la neige.
Et de un, dis-je, touché en plein dans la poitrine.
Deux autres Allemands se retournèrent pour s'enfuir, oubliant qu'ils étaient encordés et encore reliés à l'homme qui venait de s'effondrer. La scène, digne d'un film burlesque avec les Keystone Cops, eût presque pu me paraître drôle si tout le reste n'avait pas été si atrocement triste. Les deux Allemands partis en courant trébuchèrent et tombèrent, tandis que le troisième, toujours debout, se tourna vers nous, sortit un pistolet de la poche de son anorak et fit feu dans notre direction. J'entendis un bourdonnement d'abeilles distant, mais aucune balle ne passa près de nous. Le bruit de ses tirs se perdit dans le vent. Le diacre inspira de nouveau, retint une fois encore sa respiration et visa l'Allemand au visage. À travers mes jumelles, je vis trop bien l'explosion de sang, de chair et de fragments de crâne. Le pistolet lui tomba des mains et il s'écroula sur le sol de roche et de neige, ses longues jambes encore agitées par l'influx nerveux. La matière grumeleuse et grise de sa cervelle dégoulina de son casque de cuir. « Mort, dis-je. Une balle dans la tête. » J'ignorais si ce genre d'annonce faisait partie du travail de l'observateur, mais je n'avais servi à rien jusqu'ici. Les deux derniers hommes essayaient de se relever. L'un d'eux regarda dans notre direction, tête penchée en arrière pour nous apercevoir en haut du deuxième ressaut. Soudain, il leva les bras en l'air en un geste universel de reddition. Le diacre tira deux fois et l'atteignit deux fois dans la poitrine au-dessus du cœur. Je notai, en observant avec les jumelles, que les deux impacts mortels étaient contenus dans une surface pas plus grande que celle de ma main ouverte. Le dernier se contenta de retirer sa capuche, sa cagoule et son masque à oxygène, révélant un visage imberbe qui semblait très allemand et terriblement jeune. Puis il tomba à quatre pattes en pleurant. J'eus envie de dire « c'est encore presque un petit garçon ». Je ne dis rien. Kurt Meyer était encore presque un enfant, lui aussi. Le diacre tira trois fois. Une fois avant que l'homme en anorak de camouflage blanc tombe à terre, puis deux autres fois jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Plus rien ni personne ne bougeait sur cette portion de l'arête nord-est, à part quelques morceaux de tissu déchirés sur les vêtements des morts. Reggie et Passang se tenaient derrière nous et regardaient en bas. Personne ne parla. Comme mus par la même pensée, nous nous retournâmes et fîmes quelques pas vers le sud, nous arrêtant avant la corniche effondrée. Le glacier, si loin en contrebas, paraissait désert. « Merde, » dit doucement le diacre. « Oui, » murmura Reggie. Nous reculâmes et allâmes nous asseoir sur nos sacs à dos à l'abri du banc de roche, jonché de cette douille que le diacre ramassa par habitude et fourra dans une de ses poches. Tête basse et épaules rentrées à cause du vent, nous nous mîmes à discuter tous les quatre de ce que nous allions faire ensuite.